Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de montrer sur un petit exemple comment il est possible de combiner ce que nous avons vu sur la concurrence et le parallélisme et ce que nous avons vu sur l'interopérabilité pour améliorer assez drastiquement les performances d'un programme Python. L'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple calcul de l'ensemble de Mandelbrot, un calcul que vous faites sur le plan complexe. Les équations sont les suivantes, z0 initialisé à 0, et ensuite, pour votre point C du plan complexe, le reste de la suite est donné par cette équation. Et la manière dont vous le représentez graphiquement, en général, c'est que vous vous intéressez au calcul du plus petit n, tel que le module soit supérieur à 2. Et ces différentes valeurs de n, vous leur donnez différentes couleurs, et c'est ça qui vous donne une belle représentation de l'ensemble de Mandelbrot. Il s'agit, en termes de parallélisme, de ce qu'on appelle un problème embarrassingly parallèle, c'est-à-dire un problème sur lequel il n'y a aucun effort à faire pour la parallélisation. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez dans ma formule, c'est que pour chaque point du plan, le calcul est indépendant. Donc, j'ai aucune interaction entre différentes parties de mon calcul. Je peux trivialement paralléliser mon calcul. Regardons comment je pourrais implémenter ce calcul en Python. Je vais aller assez vite parce que c'est relativement simple. J'ai ici le calcul d'un pixel pour le point C. Ce que vous voyez ici, dans ma boucle qui me sert à déterminer la plus petite valeur de n, c'est que comme Python a comme type de base les nombres complexes, j'ai une manière d'exprimer le calcul de l'élément de la suite qui est très très proche de la notation mathématique. Vous voyez que z a été initialisé ici, le j étant évidemment pour la partie imaginaire de mon nombre complexe. Et donc, pour le calcul de l'élément suivant de la suite, comme j'ai dit, c'est très proche de la notion mathématique, de la notation mathématique. Et la question sur la norme, vous voyez que j'élève au carré mes composantes et je vérifie que c'est inférieur à 4. Et ça me donne un calcul semblable à ce que j'ai écrit sur le transparent précédent. Et ce que je mets à la suite de cela, c'est mon programme principal, qui, sans entrer dans les détails, va consister tout simplement à parcourir tous les points de mon plan. Si j'ai choisi une taille en termes de nombre de pixels et j'ai choisi les limites x et y de la portion du plan qui m'intéresse, et cette partie du plan principal, vous voyez que j'ai simplement deux boucles for pour parcourir sur x et sur y, et à chaque fois, je calcule la valeur de mon pixel. Et simplement, j'utilise la librairie PyQt pour, in fine, produire un joli fichier PNG que je peux regarder à partir de ce calcul. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le transparent, dans la vidéo pardon, précédente sur l'interopérabilité, je peux tout à fait réécrire ma fonction pixel en C. Ici, je le fais même sans utiliser Pymind. C'est un petit peu verbeux. Vous voyez que ma boucle principale est un petit peu plus complexe parce que j'essaye autant que faire se peut de ne pas faire deux fois le même calcul. Donc, j'ai décomposé les portions de. Enfin, j'ai décomposé mon calcul pour n'effectuer chaque portion qu'une seule fois. Et puis, l'autre chose, c'est que comme en C, je n'ai pas de type complexe. Il me faut manipuler explicitement les deux composantes de mon nombre. Mais rien de très compliqué. Et cette fonction pixel, cette fois-ci écrite en C, fait la même chose que ma fonction pixel en Python sur le transparent précédent. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans les transparents sur les threads, dans la partie sur la concurrence, ce que je fais dans cette variante de mon programme, c'est que j'utilise le module multiprocessing de Python sur le nombre de cœurs de ma machine. Et ensuite, je vais calculer ligne par ligne en répartissant, en parallélisant le calcul des lignes entre les différents processus du pool que j'ai créé ici. Donc, c'est un petit peu différent, la structure est un peu différente. Au lieu d'avoir une double boucle for sur les x et sur les y, j'ai une boucle sur les lignes qui me permet de paralléliser. Quand toutes mes lignes vont être calculées en parallèle, et quand je calcule une ligne, en revanche, eh bien, j'utilise mes fonctions pixels de mes deux transparents précédents. Regardons maintenant le résultat en termes de performance. La première version en pur Python prend quelque chose comme 78 secondes. Imaginons maintenant que j'ai une version qui utilise toujours la fonction pixel en Python, mais qui utilise multiprocessing pour paralléliser le calcul. J'ai ici sur ma machine un temps qui est singulièrement diminué, donc j'ai un bénéfice évident du parallélisme. Troisième programme ici, c'est un programme qui n'est pas parallèle, mais qui, au lieu d'utiliser la fonction pixel écrite en Python, utilise la fonction pixel écrite en C. Vous voyez que cette version du programme prend quelque chose comme 5 secondes. Et enfin, si je combine les deux, c'est-à-dire si j'utilise à la fois multiprocessing pour faire du calcul parallèle et la fonction pixel écrite en C pour bénéficier de la vitesse de C, cette fois-ci, j'obtiens un temps de 4 secondes. Donc, plusieurs observations sur ces nombres. D'abord, que si vous avez un programme en Python qui est trop lent, vous avez au moins deux armes pour essayer de le rendre plus rapide. Vous avez une arme qui est le parallélisme, une arme qui est le passage des portions critiques en C. Il ne s'agit pas de tout réécrire en C, sinon vous écrivez le programme en C dès le début, mais voilà, les portions critiques, les écrire en C. Vous voyez aussi que vous obtenez un bien plus grand bénéfice, au moins sur cet exemple, par le passage au C plutôt que par le passage au parallélisme. Et l'autre chose qui me semble importante de noter, pour revenir sur des notions liées au parallélisme, c'est de regarder le ratio que j'ai entre ces deux valeurs ici, où la seule différence c'est le parallélisme, et le même ratio entre ces deux valeurs ici, où la seule différence de nouveau est le parallélisme. Parallélisme une fois appliqué à Python, une fois appliqué à C. Et vous voyez que le ratio est très très différent. Ça doit m'amener à me souvenir de deux éléments importants lorsque je parallélise du code. Un élément qui a trait à la granularité de mes calculs. Peut-être qu'ici, le bénéfice est modeste parce que les morceaux de calcul que je répartis entre mes différents corps d'exécution, en fait, je passe plus de temps à découper le calcul et à rassembler les morceaux que je ne bénéficie à paralléliser mon calcul. Dans ce cas-là, la réponse pour améliorer le chiffre pourrait être, enfin le ratio pourrait être d'augmenter la granularité, c'est pas calculer une ligne, mais par exemple calculer 8 ou 16 lignes, quelque chose comme ça. Et l'autre remarque, pour penser à un autre point important du parallélisme, c'est que j'ai possiblement ici simplement une application de la loi de Hamdahl. Souvenez-vous que ce que vous dit la loi de Hamdahl, c'est que faut bien penser au fait que tout n'est pas parallèle dans votre programme. Et dans mon exemple, ce qui est parfaitement parallèle, c'est le calcul de l'ensemble. Mais il y a quelque chose qui n'est pas parallèle du tout, c'est la création du fichier PNG. Or, il est tout à fait possible d'imaginer que cette création prend un temps constant, parce qu'elle est faite de la même manière que je sois en Python ou en C. Simplement, l'impact n'est pas le même, évidemment, selon que mon programme de calcul est écrit en C ou en Python.